Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour, je suis Grégory Pouy et vous écoutez Vlan. Vlan, ce sont des partages d'expériences concrets, sans bullshit, pour mieux comprendre comment la société évolue. Bienvenue sur Vlan et n'hésitez pas à vous abonner.
Donc bonjour à tous, je suis avec Lubomira Rochet. Et Lubomira, je l'ai déjà reçu sur mon podcast, il y a un petit moment, quasiment au début. Lubomira, c'est la CDO du groupe L'Oréal. Donc CDO, c'est Chief Digital Officer. Et quand je t'avais reçu, je parlais encore beaucoup de marketing sur Vlan. Et aujourd'hui, on va parler plus de société et du futur de la beauté. En repartant de ce qu'est L'Oréal en tant que groupe. Parce que dans le groupe L'Oréal, il y a 45 marques, hein, je crois, de mémoire.
35.
35, bon, il y en a quand même beaucoup. Et alors, du coup, c'est quoi la raison d'être de L'Oréal? Qu'est-ce qu'ils essayent de faire en tant que groupe?
Ben, le sense of purpose ou la mission de L'Oréal, ouais, c'est d'apporter la beauté pour tous. Mm-hmm. C'est vraiment cette phrase, la beauté pour tous, qui est au cœur de notre mission de groupe.
Ok. Et alors, du coup, comment ça s'exprime au quotidien? Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on en discutait un petit peu tout à l'heure, mais à la base, L'Oréal, c'était une marque qui était quand même beaucoup pour les peaux occidentales ou en tout cas blanches. La beauté pour tous, comment ça s'exprime aujourd'hui? On va parler aussi de la manière dont vous envisagez la beauté demain, avec la personnalisation, enfin tout ça. Aujourd'hui, ça veut dire quoi en fait?
Bah, déjà, la beauté pour tous, c'est qu'on est, on est un groupe chez L'Oréal qui ne faisons que de la beauté. Donc on est un pure player, comme on dit, de la beauté. On travaille sur toutes les catégories de la beauté, donc que ce soit le maquillage, le soin de la peau, tout ce qui est autour du cheveu, le parfum, l'hygiène aussi. Et on est présent sur toutes les gammes de prix, de l'ultra-luxe jusqu'au mass-market. Et on est aussi présent dans tous les circuits de distribution. Donc les supermarchés, les parfumeries, les pharmacies, les salons de coiffure, puisque notre métier historique, c'est le salon de coiffure.
Effectivement. Et alors du coup, toi tu me disais qu'il y avait un gros mouvement entre la beauté pour tous et la beauté de chacun, c'est ça, hein, si je ne me trompe pas?
Ben, en fait, aujourd'hui, alors tu le sais puisqu'on en a déjà parlé, on a lancé un grand mouvement de transformation digitale chez L'Oréal. Ouais. Et un des trucs que le digital permet de faire, c'est beaucoup plus de personnalisation. Mmh. De plus en plus, on est en train d'aller vers la personnalisation produit. Donc on a lancé des initiatives comme le teint particulier. Alors le teint particulier, c'est une initiative lancée par Lancôme qui travaille sur le fond de teint. Alors il faut que tu saches que 50% des femmes sont extrêmement frustrées parce qu'elles ne trouvent pas la bonne teinte de fond de teint. Et c'est évidemment lié à l'extrême diversité des peaux qu'on peut trouver chez une femme ou chez un homme, parce qu'il y a de plus en plus d'hommes, ça je peux Grégory, qui se maquillent et qui mettent du fond de teint. C'est une vraie tendance.
J'ai essayé, écoute.
Je te donnerai quelques produits si tu veux, il faut que tu essayes. Et donc cette personnalisation-là, elle se fait à travers un diagnostic. Donc on va prendre... On va comprendre comment est ta peau, quelle est la vraie couleur en fait de ta peau, et on va fabriquer sur place, donc sur le point de vente, le fond de teint qui est fait pour toi en mélangeant différents pigments, différentes teintes. Et après, du coup, tu as un produit unique qui porte ton nom, un numéro de série qui sera le tien.
Et ça, c'est valable pour tous les types de peau, parce qu'en fait, c'est vrai que typiquement, tu parlais des hommes, ils ont la peau plus épaisse, s'ils sont pas caucasiens, donc asiatiques ou plutôt africains, ils vont avoir une peau encore plus épaisse, ils n'ont pas les mêmes besoins non plus, c'est-à-dire qu'une peau noire ou chinoise, elle va avoir peut-être besoin de plus d'hydratation, tandis qu'elle va avoir moins besoin de matifiant. Enfin bref, il y a plein de trucs comme ça qui changent, donc ça rentre en ligne de compte aussi.
Alors ça, ce que tu abordes là, c'est tout ce qui est aussi les produits de skincare, donc ouais, de soins de la peau, où on a pareil, créé un projet qui est intéressant. Et encore une fois, tu vois, c'est le début de tout ça, donc on n'a pas prétention d'avoir craqué tous les codes, hein. Mais en tout cas, un projet avec SkinCeuticals, qui est une marque de notre division cosmétique active, qui est une marque vraiment très professionnel, endorsé par les dermatos et par également les chirurgiens esthétiques. Donc on est sur du très expert. Et donc ce projet s'appelle Dose. Et là, du coup, tu crées du skincare personnalisé. C'est-à-dire exactement, d'accord, en prenant en compte tous les attributs que tu décris sur la texture, sur les besoins de ta peau. Et pareil, à partir d'un diagnostic assez poussé.
Et du coup, on arrête de parler de peau ethnique.
C'est-à-dire que c'est la peau, c'est ta peau, c'est ma peau, en fait. Je sais pas ce que ça veut dire ethnique, moi.
Ça n'a plus beaucoup de sens.
Ouais. Je sais ce qu'est ma peau, je sais pas ce qu'est ta peau, mais je pourrais le savoir. Et c'est ça qui compte. Et donc, du coup, cette notion, effectivement, d'aller de la beauté pour tous à la beauté pour chacun, c'est quelque chose qui est profondément signifiant, en plus, dans un moment où tu sens que l'expression de la beauté devient de plus en plus personnelle. On a vécu dans un monde auquel on a tous contribué, où la beauté était très top-down, en fait.
Très uniformisée.
Très uniformisée, avec une vision de la beauté qui était c'était très standardisé. Alors on a eu quand même une diversification un peu de ces modèles de beauté qui est arrivé au fur et à mesure des années, mais tu restais effectivement sur des modèles assez standards, des mannequins, bon, des femmes qui étaient très aspirationnelles sans doute, mais qui étaient aussi pas forcément hyper approchables pour la plupart des autres femmes. Et aujourd'hui, et notamment grâce à des plateformes comme YouTube ou Instagram, qui ont permis du coup à toutes les femmes du monde de pouvoir créer du contenu et de pouvoir parler de leur conception de la beauté, tu as créé vraiment tout un appel d'air pour que la beauté devienne personnelle et devienne une forme d'expression de soi et d'identité qui bouscule complètement toute l'image très top-down qu'on pouvait avoir.
Parce que derrière la beauté, il y a la confiance en soi. Donc logiquement, enfin, le métier de L'Oréal, quelque part, hein, c'est d'aider les gens à avoir confiance en eux, mais ça implique une dimension servicielle. Parce qu'il y a... Évidemment, on peut envisager que avoir confiance en soi, c'est juste d'être beau pour les autres, bon, ou pour soi-même. A priori, c'est un peu plus complexe que ça, c'est plus profond. Mais du coup, comment vous avez envisagé cette dimension servicielle chez L'Oréal ? Parce qu'aujourd'hui, vous faites une boîte de produits quand même beaucoup.
Et tu as tout à fait raison. Aujourd'hui, la confiance en soi ou l'empowerment, qui est un terme anglais dont on n'a pas vraiment d'équivalent en français, c'est au cœur de la mission de L'Oréal. Et c'est une très belle mission qui est de donner confiance aux hommes et aux femmes d'être bien en eux, dans leur vie, dans leurs relations, etc. Et c'est vrai que aujourd'hui, on se rend compte que malgré des années de marketing fait par nous et par tous les autres de l'industrie, au fond, il y a encore des gens qui ne savent pas quel est le bon produit pour eux. Donc aujourd'hui, on mise de plus en plus sur la dimension servicielle, comme tu disais, qui est de créer des services qui vont aller diagnostiquer. En fait, il y a deux grandes familles de services pour l'instant dans la beauté. T'as le diagnostic et t'as l'essayage virtuel. Donc aujourd'hui, une des grandes barrières à l'entrée, si tu veux, par exemple, sur du maquillage, ça va être de se dire, bon, écoute, je trouve cette teinte violette, là, électrique, magnifique, mais je sais pas trop à quoi je vais ressembler avec ça. Et peut-être que ça va être vraiment raté. Donc du coup, on a créé des outils, notamment en travaillant sur la réalité augmentée, à travers lesquels tu peux essayer, et de manière de plus en plus réaliste. Aujourd'hui, on est quasi à 100% de réalisme sur à la fois la texture, la lumière et puis la couleur, bien sûr, où tu peux regarder, bah, du coup, cette teinte de lipstick, elle ressemble à quoi sur toi. Et donc, du coup, tu vas pouvoir passer la barre ou pas, en fonction de ce que tu vois.
Donc, pour toi, le futur de la beauté, ça va être vraiment ça? Ça va être des produits qui sont personnalisés de manière systématique? Enfin, systématique ou...
Nous, les deux grands axes sur lesquels on travaille aujourd'hui, c'est les services d'un côté et la personnalisation de l'autre.
D'accord.
Et dans les services, tu as effectivement ces deux grandes familles. Le diagnostic, c'est très intéressant aussi parce que aujourd'hui... Aujourd'hui, tu peux aller dans un point de vente et avoir un diagnostic qui est fait avec une machine, avec un outil, ou par l'expertise d'une beauty assistant.
Ouais.
Mais online, t'as pas ça du tout. Donc aujourd'hui, on travaille pareil avec de l'intelligence artificielle, de la réalité augmentée, notamment à travers la société qu'on a rachetée qui s'appelle Modiface, qui travaille vraiment sur cette dimension-là, pour créer le diagnostic de peau le plus pertinent. Pour justement identifier, en fonction des attributs de ta peau, quelles sont les bonnes routines pour toi.
Et tu penses que... Enfin, c'est une question que je me pose là comme ça, mais est-ce que tu penses que les marques vont s'effacer devant ça? Ou est-ce que la dimension marque, elle va quand même être importante? Parce que à la limite, moi je pense que c'est ce que le web a changé, c'est-à-dire qu'avant tu voyais une pub à la télé et effectivement tu prenais le produit que tu voyais à la télé parce que tu faisais confiance, parce qu'il y avait une personne XY qui disait que c'était bien. Aujourd'hui, ce que tu es capable de faire sur le web, c'est que finalement, tu vas trouver le produit qui correspond à tes besoins. Alors, je parle pas que de beauté, c'est en général, évidemment. Mais finalement, l'aspect marque, il arrive... D'abord, je cherche un produit qui me correspond, je vais lire les commentaires, ce que les gens en disent, etc., etc. Et j'ai une réassurance de marque qui arrive, mais qui arrive peut-être après. Donc du coup, je me dis que dans la beauté pour chacun, comme ça, où on va avoir des produits qui sont très personnalisés et où je vais faire confiance à la qualité L'Oréal, on pourra en parler des indie brands qui ont un petit, en général, donc toutes ces marques qui sont indépendantes, qui arrivent sur le marché, comme les Glossy, etc., qui n'ont pas une qualité équivalente, on va dire, en général. Je parle pas pour Glossy en particulier, mais c'est la plus connue, donc voilà. Donc pour toi, ça va être quoi le rôle des marques dans ce nouveau paradigme?
Écoute, je pense que le rôle de la marque, c'est le... le, c'est une... c'est un slogan qui existe, mais c'est le contrat de confiance d'une certaine manière. À la fois parce que tu as tous les éléments de réassurance, comme tu viens de le dire, sur la qualité, la safety, enfin qui sont des choses qui sont des non négociables, notamment quand tu veux aller sur, enfin en fait sur toutes les catégories, mais encore plus si tu imagines du skincare, etc.
Bah, si tu le mets sur ta peau, quoi. Ben, donc, ouais.
Et aujourd'hui, on a en plus du côté des consommateurs une levée de bouclier sur des ingrédients, etc. Donc les gens sont de plus en plus informés là-dessus et t'as vraiment une démarche qui est très importante. Donc t'as cette dimension-là de la confiance, mais pour moi, t'as une dimension qui est très importante aussi, qui est l'engagement de la marque. C'est quoi l'engagement de la marque pour la société? Tu parlais de problématiques sociétales. C'est quoi l'engagement de la marque pour la société? Par exemple, tu prends une marque comme Lancôme chez nous. C'est une marque qui est une marque très ancienne et qui a aujourd'hui décidé d'investir sur l'illettrisme des femmes.
D'accord.
Et qui aujourd'hui fait des campagnes régulières, finance des associations, travaille sur le fait de donner cette compétence de base, mais sans laquelle les femmes ne peuvent pas être empowerées, ne peuvent pas avoir de confiance en elles. Donc cette notion de la confiance, évidemment, elle est liée à ta beauté ou à, en tout cas, ton aspect, mais elle est aussi liée au fait que tu puisses maîtriser des choses aussi basiques que l'écriture et la lecture.
Effectivement. Et ça, donc, c'est partout dans le monde ?
Oui, c'est partout dans le monde. Et en fait, tu vois, c'est cette notion d'engagement, cette notion de sens, cette notion de qualité, c'est des choses qui resteront, je pense, des aimants majeurs quand tu te dirigeras vers un produit ou un autre.
D'accord.
Donc nous, on reste absolument convaincus que les marques sont puissantes et seront de plus en plus puissantes, surtout dans un monde où tu as une prolifération en fait d'offres qui est en train d'arriver.
Et finalement, c'est marrant parce qu'on a eu tendance à penser que ce que les gens voulaient, c'était du choix. Alors qu'en fait, les gens, ils veulent pas forcément du choix, ils veulent le produit qui leur correspond à eux. Enfin...
Mais en fait, ça c'est, je sais pas si t'avais lu le livre qui s'appelait More is Less, mais et moi, je vais te donner une anecdote. Hein. Moi, je suis née en Bulgarie, donc quand je suis arrivée en France, j'avais quoi? J'avais 6-7 ans. En Bulgarie, tu faisais la queue parce qu'il y avait un magasin qui vendait un truc, tu vois.
C'est
donc tu faisais la queue, puis t'achetais ton truc. En France, la première fois que je suis arrivée, j'ai deux souvenirs très précis. Le premier, c'est d'arriver dans une boulangerie et d'halluciner d'halluciner complètement. C'est-à-dire qu'en fait, t'as un truc où quand t'as de l'hyper choix, en fait, t'es perdu. Parce que tu sais juste même plus quoi choisir. C'était la boulangerie. Le deuxième, c'est que quand t'es bulgare, tu aimes le yaourt, hein, c'est un truc culturel. Et pareil, je me suis retrouvée dans un rayon de supermarché avec des dizaines, des centaines de yaourts à choisir. C'était ingérable.
Ouais.
Donc en fait, je pense que l'hyper choix est angoissant, en fait.
Bien sûr.
Et je pense qu'un des rôles aussi dans le contrat de confiance de la marque, c'est qu'elle puisse te guider vers la bonne offre pour toi, en fonction des attributs de ta peau, de la forme de ton visage, de la manière dont t'es habillée aujourd'hui, qui va te permettre de choisir le bon look make-up qui va bien.
Alors qu'en fait, c'est vrai que les marques, elles ont... Je pense qu'aujourd'hui, le petit problème des grandes marques, c'est qu'elles ont perdu de la confiance dans une certaine mesure à cause de la pub et des promesses qui ont été faites et évidemment qui étaient de la publicité. C'est peut-être pour ça qu'on voit autant de marques indépendantes qui se développent. Je sais pas très bien, en fait, il y a plein de choses qui expliquent les marques indépendantes. Il y a la manière dont elles communiquent avec des codes, la manière dont elles sont aussi ouvertes aux consommateurs, à quel point elles empower les femmes. Enfin, il y a plein d'éléments, évidemment. Mais par contre, là où elles sont plus faibles en général, c'est sur la qualité produit, de mémoire.
Écoute, je pense que, ce qui est une évidence, c'est que les barrières à l'entrée sur le marché de la beauté, mais c'est pareil sur le food, c'est pareil sur la boisson, la barrière à l'entrée ont baissé à cause du digital.
Ça, c'est une
évidence. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, tu prends Instagram, qui est une plateforme où les marques se construisent. Tu as des marques qui se sont créées sur Instagram, comme il y avait des marques qui s'étaient créées sur YouTube, comme il y a des marques qui se créeront par d'autres moyens demain.
Bien sûr.
Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, quand tu regardes, et on passe beaucoup de temps à le faire, tu as une normalisation de la manière dont les marques se créent qui est hallucinante.
Ouais.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est toujours les mêmes recettes.
Oui.
Là où tu te disais, justement, ça ouvre vachement la porte à la créativité, du coup tu peux avoir des modèles marketing complètement différents. En vrai, c'est des patterns, c'est des modèles qui sont appliqués à la lettre. Et tu utilises les mêmes influenceuses, tu utilises les mêmes codes, etc. Et à la fin, ça crée une uniformisation extrêmement étonnante, en fait.
Mais le web a uniformisé. Hein. Enfin, je ne sais pas si tu as lu ces articles qui expliquent à quel point, par exemple, quand on allait... sur Airbnb, qu'on soit au Japon, en Allemagne, en France, en Italie, c'était forcément, ou au Brésil, c'était des appartements qui avaient rien à voir. Et à travers Instagram et Airbnb, du coup, ça s'est complètement uniformisé.
Oui,
donc, tous les appartements sont tous les mêmes. Il y a des plantes vertes, un peu de bois.
Oui, puis t'as le mur de pierre au fond, comme un Brooklyn. Oui, c'est ça.
C'est,
dans la beauté, c'est exactement pareil. Nous, on s'est dit, tiens, ça va être intéressant. Il va y avoir pas mal de créativité dans la manière de faire du marketing. À la fin de la journée, tu te retrouves avec des gens qui appliquent des modèles, en fait. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que dans toutes ces nouvelles boîtes qui se créent, t'as assez peu et ça va reboucler avec ton point, t'as assez peu de gens qui sont des experts de la beauté. Mmh. T'as des gens qui sont des VC, t'as des gens qui ont vu un peu le filon de ces nouvelles marques qui se lançaient dans le monde de la beauté et qui se sont mis à créer ça, mais qui n'ont aucune sensibilité produit, qui n'ont pas de sensibilité consommateur au sens de cette connaissance que nous, on peut avoir centenaire des besoins des consommateurs sur nos différentes catégories. Et évidemment, une préoccupation et une obsession, j'ai envie de dire, autour de la qualité et de la safety, qui ne sont pas toujours au rendez-vous.
D'accord. Et alors du coup, juste, pardon, excuse-moi, j'étais en train de réfléchir, je me disais, parce que les femmes, évidemment, chacun veut un produit qui est pour soi. Enfin, je suis pas certain. D'ailleurs, je suis même pas certain que ça soit une demande exprimée par les consommateurs. Je pense qu'effectivement, si on leur dit, bah, je vais te faire le produit qui est pour toi, ça résonne. Mais a priori, c'est pas toujours ce que les gens cherchent. Comment vous allez développer ça? Parce qu'en fait, il y a quand même un énorme travail à faire, enfin je pense, pour leur dire, mais oui, mais en fait c'est vraiment un produit qui est pour vous et c'est accessible, enfin parce que il y a aussi cette question évidemment. Mais
aujourd'hui, tu vois, encore une fois, tout ça c'est nouveau et puis ça s'inscrit dans des vrais débats, tout ce qui est 3D printing, etc. Ouais. Aujourd'hui, la question c'est, est-ce que le modèle industriel tel qu'on a connu dans les 50 à 100 dernières années est quelque chose qui est en train d'exploser et on va se retrouver à faire des choses extrêmement individualisées, locales, etc. Donc ça, il y a un vrai débat autour de ça. Nous, on voit pas ça arriver dans les 5 ans qui viennent, pour être très honnête. On ne voit pas ça arriver. La pérennité des business models de l'ultra-personnalisation, c'est quelque chose qui est vraiment en question aujourd'hui. On n'en a pas la preuve. En revanche, on sait que la personnalisation en général est quelque chose qui est important pour nos consommateurs. Mais tu as différentes formes de personnalisation, entre, on va dire, la customisation qui est d'avoir ton prénom sur une bouteille de coca, jusqu'à ta crème, ton soin de la peau hyper personnalisé qui sera très différent pour chacun. T'as toute une gamme en fait de personnalisation qui existe, et nous on est en train d'explorer tous les modèles pour voir ce qui sera du coup où s'orienter par rapport à la demande des consommateurs et par rapport évidemment à la rentabilité des modèles économiques.
Bien sûr.
Mais il y aura une variété de ça, et il y aura des gens qui seront toujours très contents d'avoir des produits de masse, et il y a des gens qui ne voudront que des produits hyper, hyper personnalisés. Puis ça dépend des catégories aussi. Quand c'est sur du parfum, on a bien vu sur le parfum, qui est un environnement où tu as des grands blockbusters mondiaux. Mmh. Donc une certaine frange de la population a voulu avoir quelque chose de très différenciant. Donc d'aller vers de la création, soit vers des boutiques, enfin vers des petites boutiques qui vont créer des choses qu'on ne retrouve pas, des sillages qu'on ne retrouvera pas chez monsieur et madame tout le monde, jusqu'à des gens, et on a quelques startups, nous on a un incubateur à Station F, et on a déjà deux startups qui se positionnent sur ce Nespresso du parfum, où on va vraiment aller créer des compositions.
Mais c'est vrai que c'est étonnant le parfum, parce qu'on aurait tendance à penser comme ça, que les gens n'ont pas envie d'avoir la même odeur que les autres. Bon, déjà le parfum tourne en fonction de ta peau, mais souvent, c'est vrai qu'il y a quand même des blockbusters, typiquement One Million, ou alors,
ce qui est pas La vie est belle. Hein. Mais voilà. Belle.
Pardon. Hein, mais...
Si. Black Opium, voilà. Je peux t'en citer d'autres.
mais c'est vrai que les gens, enfin, quelque part, ça doit les rassurer, j'imagine, d'avoir le parfum.
Encore une fois, je pense qu'en fonction des consommateurs, tu auras toutes sortes d'envies, en fait. Et aujourd'hui, c'est ce qui est fondamental dans nos métiers, c'est de partir de du consommateur et de la consumer centricity, de se demander quelles sont les demandes, en fait, de nos consommateurs. Et il faut être capable, y compris d'un point de vue industriel, ce qui est un vrai challenge, de s'adapter à la fois à la livraison des palettes de La Vie est Belle chez Sephora, jusqu'à le batch of one, comme on dit, vraiment l'exemplaire unique de ton soin, de ton parfum, ou même de ton rouge à lèvres. Et d'un point de vue industriel, je ne sais pas si tu vois l'énorme complexité que ça peut générer.
Ça n'a plus rien à voir, bien sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, les technologies ce qui est intéressant avec les technologies, tu parlais d'intelligence artificielle, d'impression 3D, etc. Aujourd'hui, les technologies te permettent, et c'est typiquement ce que vous faites avec Lancôme, mais d'aller dans ce qu'on appelle du lean, c'est-à-dire de pas produire en avance et d'avoir des produits qui sont faits pour le consommateur sans avoir un délai incroyable. Après, il y a toute une question dont on ne va pas rentrer dedans, mais de l'approvisionnement des matières premières, etc.
On travaille sur des mini-usines qui peuvent être du coup disponibles en point de vente et qui peuvent du coup donner beaucoup d'agilité à nos conseillères beauté en point de vente pour pouvoir créer justement des produits personnalisés. Donc, mais tout ça, c'est une révolution qui est fascinante.
Et d'ailleurs, parce que là, on parle des points de vente, je pense qu'il y a une question qu'on peut se poser aussi quand on parle du futur de la beauté, c'est comment vont évoluer les points de vente? Parce que je pense qu'il y a une peur quelque part il y aura que des robots, il y aura plus d'humains, il y a ce truc-là. Toi, tu en penses quoi?
Mais moi, je pense qu'il y aura de la place pour tout le monde, en fait. Je pense que t'auras des modèles qui seront, en fonction de la valeur qu'ils créent, extrêmement automatisés. Une partie du consumer care sera automatisée parce qu'aujourd'hui du service client sera automatisé, mais tu auras toujours, je pense que le besoin de relation est quelque chose de très très bas dans l'échelle de Maslow,
ouais.
Et tu auras toujours besoin d'échanger, d'être rassuré et d'être en lien avec quelqu'un au moment de choix de choses très engageantes. Tu penses à quelque chose en particulier qui est la coloration du cheveu. Pour les femmes et les hommes, ça peut être un moment extrêmement engageant,
ouais.
Que ce soit pour couvrir tes premiers cheveux blancs ou pour tout d'un coup te créer ce mermaid look turquoise. C'est quand même super engageant, et puis ça s'enlève pas au bout du premier shampoing. Donc dans ces moments-là, t'as quand même besoin de quelqu'un qui t'accompagne dans le saut de la foi, tu vois, dans cette espèce de moment où tu vas dire bah tiens, allez, je vais me colorer les cheveux en turquoise. Et c'est ces moments-là où l'humain est irremplaçable.
Ouais, ça c'est sûr. Et donc, du coup, on va envisager dans les boutiques, il va y avoir des machines. Enfin, ce que tu décrivais, c'est d'ailleurs des petites usines.
Oui.
Enfin.
Ah oui, ça, j'en suis convaincue.
À taille de boutique.
Ouais.
Avec des humains qui vont accompagner les gens.
Exactement. Humains qui vont accompagner les gens. Et moi, j'oppose pas du tout les robots et les humains, en fait. Enfin, tu sais, c'est un débat qui est millénaire, hein.
Oui.
On a eu les ludites dans l'Angleterre des années 1850. On a eu les travail à la chaîne, etc. Et c'est vrai que, aujourd'hui, la question, c'est la création de valeur. Où est-ce que tu crées de la valeur pour le consommateur? Et c'est vrai que sur les tâches automatisables, elles seront automatisées, mais du coup, ça libérera du temps et de la productivité
pour
faire du conseil et pour aller plus loin dans la relation. Et aujourd'hui, qu'on parle beaucoup d'économie d'expérience, aujourd'hui, clairement, c'est ça que les gens attendent.
C'est de l'expérience?
Ouais.
Plus que du produit, tu crois?
Les deux.
Ils veulent les deux.
Les deux. Mais aujourd'hui, un produit sans expérience, c'est compliqué.
Ça devient compliqué. Il y a ça, et puis il y a aussi, tu parlais tout à l'heure d'Instagram, je pense que ce qui a vraiment changé, c'est que chacun est devenu une marque.
Exact.
Ce que les marques parfois ont du mal à saisir, c'est plutôt que de se dire comment je vais faire en sorte que le consommateur me mette en avant, c'est comment moi, marque, je vais aider le consommateur à se mettre en avant.
Exactement.
Pour que, in fine, il me mette en avant. Mais
c'est très juste ce que tu dis. C'est très juste. Et c'est vrai que dans le sens dans nos missions de marque, c'est quelque chose qui aujourd'hui nous fait complètement passer de cette idée un peu top-down, un peu descendante,
ouais,
à une idée qui est qu'on est là pour équiper les gens au fond à se révéler eux-mêmes et à révéler leur identité, leur forme d'expression. On est vraiment dans une horizontalisation de l'identité. Et ouais, c'est très intéressant.
C'est vachement intéressant. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on vit une révolution industrielle. Je ne sais pas si tout le monde en a bien conscience, mais c'est une vraie révolution industrielle. Donc, du coup, ça a plein d'impacts, et en particulier culturel.
Ouais.
Et chez L'Oréal, évidemment aussi. C'est-à-dire, comment la culture du groupe va bouger, enfin, doit bouger nécessairement. Et ce n'est pas une question de savoir et de comprendre dans le détail la technologie, je ne sais pas trop quoi. Mais c'est plutôt vraiment culturellement de comprendre comment le monde est en train d'évoluer, parce que le digital est en train de s'immiscer partout. C'est-à-dire qu'on. Ouais. Aujourd'hui, de parler de digital, c'est même plus un sujet.
C'est même plus un sujet.
Aujourd'hui, c'est partout, donc ça n'a pas vraiment de sens. Quoi.
Ouais, c'est une technologie ambiante. C'est-à-dire que comme aujourd'hui, c'est juste. Enfin, comme je dis souvent, on ne fait plus du marketing digital, on fait du marketing à l'ère du digital.
Ouais, moi, c'est toujours tout ce que je.
et c'est vrai qu'aujourd'hui, le grand enjeu, c'est quand je suis arrivée il y a 4 ans, le digital était déjà au cœur des préoccupations, parce que Jean-Paul Agon, notre CEO, notre PDG, avait décrété en 2010 l'état d'urgence digitale. Donc il avait été assez visionnaire sur le fait que le digital allait vraiment changer notre business model. Mais en 2014, quand je suis arrivée, on était encore dans un groupe qui était qui considérait le digital comme le truc qu'il fallait faire après, quoi.
Oui.
Alors parfois, quand je suis un peu vulgaire, je dis c'est le truc fait au cul du camion, tu vois.
Ouais.
La cerise sur le gâteau. Et aujourd'hui, clairement, on commence par le digital, parce que le digital nous donne beaucoup d'insights, beaucoup d'informations sur nos clients, sur ce qu'ils attendent, etc. Et que le digital nous permet de comprendre nos consommateurs comme jamais on a pu les comprendre, de créer ces relations personnalisées avec eux. Et du coup, même en termes de créatifs, aujourd'hui, de format créatif, aujourd'hui, de plus en plus sur nos campagnes et nos grands lancements, on part de la création digitale pour aller vers la télé. Alors qu'avant, évidemment, tu prenais la télé,
oui,
et tu la coupais,
tu
coupais le spot
Internet.
Télé et tu faisais un spot digital.
Ouais.
Aujourd'hui, sur une des campagnes les plus avec le plus de succès qu'on a pu voir récemment, c'était Magic Retouch, qui est un produit de retouche couleur, cheveux. On est parti du 6 secondes. Et on a refait un 30 secondes à partir du 6 secondes. Ah, donc c'est hyper intéressant, c'est le monde à l'envers.
Et du coup, parce que tu parlais de...
Et juste pour ça, Jean-Paul, il dit souvent, je vais le dire en anglais, vas-y. Et après je vais le traduire en français, « If you think that digital is the cherry on the cake, you're wrong, it is the cake.
Ouais. »
Donc si tu penses que le digital c'est la cerise sur le gâteau, en fait non, c'est le gâteau.
c'est exactement ça en fait. Et du coup... Il y a un dernier sujet que je voulais aborder, je sais pas si, mais sur la donnée consommateur, mm-hmm. parce que je pense que ça devient un sujet de plus en plus omniprésent dans la en dehors du RGPD où les gens n'ont pas compris exactement ce que c'était, mais j'ai fait un épisode de podcast dessus. mais c'est vrai que bon, il y a une question de données personnelles, donc c'est bien parce que l'Europe protège. Parce que c'est vrai qu'on a en ce moment dans le monde globalement deux modèles, un modèle chinois où tout le monde est fliqué. Voilà.
Et il est paradoxal le modèle chinois parce qu'en même temps t'as une sorte de RGPD chinoise qui est en train de se mettre en place.
Ouais.
Et en même temps t'as des initiatives de scoring où Alibaba il score en fait ta qualité d'emprunteur.
Exactement, donc, chaque citoyen. Quoi.
C'est très paradoxal ce qui se passe en Chine.
Ça, et puis de l'autre côté, on a le modèle américain où toutes les données sont vendues, hein, en gros, et accessibles. Et du coup, c'est intéressant ce modèle européen où on essaie de protéger un petit peu la data. Mais en Europe et pour les marques, et en particulier pour Real, vous allez avoir besoin de cette donnée consommateur et en même temps, vous allez devoir la protéger aussi, non ?
Aujourd'hui, nous, notre constat, c'est que c'est deux choses. C'est un, qu'il y a eu des dérives sur le marché et notamment sur la tech qui ont été hallucinantes. Et qui ont créé une fatigue en fait du marketing et du remarketing et du retargeting qui était je suis déjà allée à Prague, arrêtez de m'envoyer votre hôtel, j'y suis déjà allée
en fait.
Donc on voit bien il y a une fatigue qui a été créée par rapport à ça et donc du coup une suspicion par rapport à l'utilisation des données, parce qu'on se dit, attends, je suis là, comment il sait, après, quand je me connecte à mon compte Gmail, que j'ai été là, en fait, il y a un vrai problème. Donc, une suspicion généralisée. Et en parallèle de ça, t'as quand même un autre mouvement qui est important à comprendre, qui est la demande de personnalisation. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils sont aussi en attente de personnalisation, de si t'as passé ta dernière semaine à consulter des pages sur un rouge à lèvres rouge, t'as pas forcément envie de recevoir une pub de coloration de cheveux. Donc, c'est dans cette balance-là qu'il faut qu'on trouve les choses. Et nous, on a accueilli RGPD, en tout cas, la démarche derrière RGPD, qui est une démarche au fond qui dit deux choses, qui dit transparence et consentement, comme quelque chose d'extrêmement positif. Moi, je suis convaincue que on va de plus en plus parler d'éthique de la donnée et pas juste de protection de la donnée. Et je suis de plus en plus convaincue que la manière dont les boîtes et les grandes boîtes comme nous allons gérer nos données va devenir un avantage compétitif. De la même manière qu'on a embrassé tout ce qui est responsabilité sociale de l'entreprise, je pense que la manière responsable de gérer les données va faire partie de la mission sociale d'une entreprise. Donc nous, je te donne un exemple, quand on a fait RGPD, on a perdu 50% de nos bases de données. Je pense comme tout le monde. On l'a fait vraiment sérieusement. Et à la fin de la journée, on s'est dit, c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Une mauvaise nouvelle parce qu'effectivement, 50% des bases ont été perdues. Mais en même temps, une excellente nouvelle parce que les gens qui restent sont des gens qui ont envie de parler avec toi, en fait.
Ouais, c'est ça.
C'est-à-dire que c'est des gens que tu ne vas pas ennuyer en leur envoyant des informations. C'est des gens qui ont envie.
Donc ça veut dire que les gens qui ont reçu le mail RGPD, ils ont répondu, en fait.
Ouais.
Parce que moi, je ne les ai jamais...
Mais il y en a étonnamment qui ont répondu.
Ouais, 50%.
Quoi. 50%, tu vois. Donc, non, mais mine de rien, ça dit quand même. Bon, il faut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Mais il y a quand même 50% des gens qui ont eu envie de rester en lien avec nos marques.
Et ça, c'est vachement bien.
Bah oui, parce qu'elle leur apporte quelque chose.
Et alors, ce podcast, il s'appelle Vlan. À qui ou à quoi tu voudrais claquer la porte ?
À tous ceux qui m'expliquent ce que ça veut dire pour moi d'être belle.
Ouais, effectivement. Parce que ça veut plus rien dire.
C'est un peu moi qui vais leur dire.
Bah, exactement. Cool, merci beaucoup.
Salut Greg.
Salut.
Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.